Loi ou grâce, prêché le 6 octobre 1954 à Jeffersonville, Indiana, USA.
Loi ou grâce, prêché le 6 octobre 1954 à Jeffersonville, Indiana, USA. Bonsoir, mes amis. Eh bien, je suis heureux d'être de nouveau ici ce soir et la raison pour laquelle j'étais en retard, j'ai justement, comme frère Neville disait, j'étais en retard. Mais ce qui était la cause de cela, l'autre jour j'ai dit dans l'église, vous le savez, j'ai dit, eh bien, je vais simplement essayer de m'éloigner de ces appels et de ces choses. Mais je ne peux pas faire cela. Et ainsi, je viens juste de quitter l'hôpital. Un couple d'hôpitaux à Louisville, il y a quelques minutes, des cas urgents. Alors c'est la raison pour laquelle j'étais un peu en retard. Je suis arrivé juste à temps pour venir ici. Alors ensuite, ma femme elle m'a appelé, elle m'a parlé de cela. Je crois que Sir Ruddle avait l'intention d'être ici ce soir. Mais elle était trop malade. Et ainsi je suis désolé d'entendre cela. Et j'ai laissé mon cousin à Louisville. Je viens juste de le conduire à Christ, une bonne chose. Et c'était une maladie terrible, la maladie de Hodgkin, et il pouvait en mourir n'importe quand. Je crois que le Seigneur l'a guéri pendant la nuit. Alors le petit-fils de frère Jim Wisehart s'est rendu là, avec la même chose à l'hôpital des vétérans, et la maladie de Hodgkin qui se répand à l'entour du cœur et de la cavité thoracique, ainsi vous savez ce que cela signifie, c'est qu'il reste peu de temps. Ils ne peuvent rien faire pour cela. Mais ils savent que leur seul espoir est Dieu. Je devrais vraiment aller à Milltown ce soir. Busty Rogers, vous vous souvenez, il vient ici. Plusieurs d'entre vous connaissez Busty Rogers. Il est dans une sérieuse condition et pendant toute la journée, il m'a appelé. Et la petite Georgie Carter là-bas se rend compte qu'elle a été guérie il y a environ 12 ou 14 ans, couchée sur un lit pendant 9 années et 8 mois et ne s'étant jamais levée de ce lit. Et sans sortir une fois, j'avais prié pour elle deux ou trois fois. Je suis sorti un soir et je suis allé dans un endroit en prière. Et le Seigneur est descendu. Une petite lumière brillait au travers d'un buisson de cornouiller. Et il a dit, « Va chez les Carter pour la guérison de Georgie. Elle sera guérie. » Vous connaissez tous le cas, n'est-ce pas? La congrégation dit « Amen », note de l'éditeur. Toutes ces années, elle n'est jamais retournée au lit, même pas avec un mauvais rhume, je suppose, depuis ce temps. Et on découvre qu'elle est mourante, avec un cancer du sein maintenant. Et elle a appelé. Elle a entendu dire que j'étais revenu. Ils dirent qu'elle ne renonçait pas à lutter. Elle est sortie du lit pour accepter sa guérison. Alors je dois absolument la voir. Demain, c'est ma dernière journée ici. Je dois partir. Alors, il y a des piles d'appels, environ comme cela. Vous ne savez pas quoi faire. Vous faites simplement du mieux que vous le pouvez. Mais la chose principale, comme le frère l'a dit, la chose principale à faire, vous devez tout abandonner pour communier avec Jésus-Christ. Tout. Elle est habituée après tout et nous commençons à nous surveiller l'un l'autre. Alors, nous nous éloignons de Christ, vous voyez. Je préfère dépenser beaucoup et beaucoup de temps en communion avec lui, afin de pouvoir aider les autres. Est-ce vrai? La congrégation dit « Amen », note de l'éditeur. Alors c'est bon d'être ici ce soir, pour cette petite réunion de prière, pour ce rassemblement du mercredi soir. Et j'ai oublié de lui en parler concernant l'enseignement de ce soir. Alors je n'ai eu qu'à venir ici ce soir et simplement m'exposer. Ainsi, en descendant sur la route avec les lumières de mon automobile, j'ai choisi quelque chose ici que j'avais enseigné à l'école du dimanche, il n'y a pas longtemps, dans l'Épître aux Hébreux, pour ce soir. Je crois que la dernière fois que j'ai enseigné à l'école du dimanche ici, c'est avant que j'aille outre-mer, j'étais dans les Hébreux au 10e chapitre. Je me souviens de l'avoir lu et de l'avoir marqué ici, le 18e verset, pour dimanche prochain. Mais le dimanche prochain n'est jamais venu. Alors peut-être que nous commencerons là ce soir pour notre leçon de ce soir. Le Seigneur vous bénisse, et rappelez-vous de tout ceci en prière. Une dame vient de me dire il y a quelques moments, quand je suis entré, qu'un des vieux amis vient de sortir de l'hôpital, ou il est descendu à l'hôpital plutôt, et il vient d'y subir une opération. Bill Grant, de la police ici, un de mes bons amis, qui imprégnant ses photos et ses choses à l'hôpital dans une situation critique. Et j'ai rencontré le frère Slaughter là-bas. Jean m'a dit, je crois qu'il avait été à l'hôpital 2 fois. La maladie est simplement partout, vous savez. Il n'y a pas de fin à cela, quasiment. Mais il a dit, vous savez, je me suis souvent demandé lorsque Moïse conduisit les enfants d'Israël à travers le désert, lorsqu'il les a fait sortir, il y avait environ 2 millions de personnes. Cela comprend les jeunes et les vieux tous ensemble. Et il les conduisit pendant 40 ans dans le désert. Maintenant, pensez-y, comment, à présent là-bas, sans l'hygiène que nous avons aujourd'hui. Et aussi, ils n'avaient pas, ils avaient des jeunes, beaucoup de jeunes gens là. En un soir, combien naquit-il de bébés, pensez-vous, avec 2 millions de personnes? Et ensuite, en plus de tout cela, avec toutes les personnes âgées, avec les infirmes et ces choses, et il les a conduits pendant 40 ans sous la conduite de Dieu, dans le désert pendant 40 ans. Et lorsqu'ils sont sortis, il n'y avait personne de faible au milieu d'eux. N'aimeriez-vous pas regarder dans le sac à médicaments du docteur Moïse ce soir pour voir ce qu'il avait là-dedans pour les garder en santé? Aimeriez-vous tous le regarder? La congrégation dit « Amen », note de l'éditeur. Je peux vous le montrer. Nous allons retourner ici maintenant dans le livre de l'Exode et je vous montrerai où. C'est sa pharmacie portative. Je vais vous montrer ce qu'il a dit là-bas. Je vais regarder directement dans son coffret de pharmacie et je verrai qu'est-ce que l'on dit. Lorsqu'il y avait un bébé qui devait naître, lorsque quelqu'un avait l'appendicite ou attrapait la tuberculose ou n'importe quoi comme cela, voici la prescription que Moïse lisait. « Je suis l'Éternel qui te guérit. » C'est la seule chose qu'il possédait. « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Maintenant, c'est la seule chose qu'il possédait. C'est assez bon, n'est-ce pas? La congrégation dit « Amen », note de l'éditeur. Moïse disait « Maintenant, l'Éternel est celui qui te guérit. » Et il priait tout simplement pour lui, et il était guéri. Et vous savez quelle autre chose s'est produite durant ce temps dans le désert? Il n'avait même pas besoin de souliers neufs lorsqu'ils sont sortis, et leurs vêtements ne se sont jamais usés. 40 ans dans le désert, avec un seul médicament, une seule prescription, « Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. » Et il l'a fait parce qu'ils l'ont pris à sa parole. Et se sont tout simplement libérés de tout. Rappelez-vous maintenant, ils avaient été enseignés. Ils avaient été là-bas avec les Égyptiens qui furent les plus intelligents. Nous n'avons pas de docteur aujourd'hui aussi habile qu'ils l'étaient. Parce qu'ils avaient des choses qu'ils firent, qui démontrent que nous n'avons jamais atteint cet endroit encore dans la science. Par exemple, les Égyptiens bâtissaient, et il y a seulement quelques jours, je suis passé près du Sphinx pour regarder combien grandiose était cette chose. Et ces pyramides, comment là-haut, aussi haut qu'un quartier d'une ville dans les airs, il y en a des tonnes. Il y a des grosses pierres roulées là-bas, quasiment aussi grosses que ce tabernacle. Ils ne pourraient pas les mettre là-haut aujourd'hui s'ils le devaient. Alors ils le firent d'une quelconque manière. Et ensuite le sphinx, je pense que cela a pris 16 plateformes pour en étendre ses jambes. Qu'en serait-il de son corps? Et il est là, debout dans les airs. Comment l'ont-ils monté là? Voyez, ils furent des personnes ayant des secrets, une intelligence que nous n'avons pas aujourd'hui. Je pense que nous l'avons, mais nous n'avons simplement pas progressé avec cela. La force atomique ou quelque chose comme cela, parce que la puissance électrique ou tout autre pouvoir comme cela ne pourrait pas le lever. Mais ils le bâtirent à leur époque. Et cette pyramide, cette grande pyramide qui est là, géographiquement, elle est parfaitement au centre de la Terre, peu importe où se trouve le Soleil. Il n'y a aucune ombre autour d'elle. Techniquement, nous avons beaucoup de retard pour nous comparer avec eux. Et de penser que cela fait plus de 5000 ans qu'ils ont eu cela. Ainsi, là-dedans, ils dévoilèrent la Bible, tout comme cette Bible ici, elle est écrite là-dedans, juste par des mesures, et ainsi de suite, des mesures sorties de l'Évangile et des Écritures, tout comme nous l'avons ici. Enoch plaça cela là-dedans, des années et des années avant le déluge. Et aussi, Dieu a écrit 3 Bibles, Dieu fait tout en 3, il a écrit 3 Bibles, il y a 3 venues de Christ, il y a 3 dispensations de la grâce. Il y a trois personnes dans la divinité, ou trois manifestations de la personne unique dans la divinité plutôt. Et toutes ces choses, voyez. Maintenant, comme Jésus est venu la première fois, il est déjà venu ici une fois, n'est-ce pas? Il est venu pour racheter son épouse. Il vient la seconde fois pour recevoir son épouse, l'enlever, la rencontre dans les airs. Et il revient la troisième fois avec son épouse, comme roi et reine. Voyez? Donc ensuite, il y a aussi trois, Dieu manifesté en trois. Dieu s'est manifesté une fois dans la paternité, lorsqu'il conduisit les enfants d'Israël. La fois suivante, que Dieu s'est manifesté, fut à l'intérieur de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. La troisième fois que Dieu s'est manifesté, c'est avec nous maintenant, le Saint-Esprit. Voyez, trois manifestations, tout dans les trois. Maintenant, allons de l'avant dans votre leçon. Combien aime lire la Bible est juste? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Oh, comme j'aime cela! Dieu voulant, lorsque je reviendrai, je vais partir pour prendre un peu de repos maintenant, pour une semaine ou deux. Alors, lorsque je reviendrai, Dieu voulant, je veux tenir une campagne de réveil ici au tabernacle, simplement un réveil d'enseignement. Et nous allons prendre quelque part dans la Bible et tout simplement aller au travers de notre... Vous rappelez-vous combien des anciens ici se souviennent lorsque nous avions coutume de prendre le livre de l'Exode et de le prendre parfois pendant des mois et des mois sans le quitter. Une fois, j'ai été dans Job et cela semblait que je ne le quitterai jamais. Vous rappelez-vous de cela? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Une dame m'écrivit une lettre disant, « Frère Branham, quand allez-vous faire sortir Job de son tas de cendres ?» Je continuais sur ce seul et même sujet. Pauvre vieux Job, assis sur le tas de cendres, vous savez, tous ses amis l'avaient abandonné. Il était fauché, plein d'ulcères et tout. J'avais tellement pitié du pauvre vieux que je... Et ensuite, comment le Seigneur s'est retourné et l'a béni, parce qu'il vécut au mieux de sa connaissance, sous le sacrifice expiatoire, l'Holocauste. C'est la seule chose qu'il connaissait, et il pour confesser ses péchés. Et il allait chercher ses enfants, faisait un sacrifice disant, ils ont peut-être péché secrètement, et ils ne le savent pas. Comme il fut un bon père. Et Dieu lui a redonné tous ses enfants à la fin. Saviez-vous cela? Et dites donc, je vais vous demander quelque chose. Vous souvenez-vous combien d'enfants il lui redonna? Maintenant, rappelez-vous, il lui avait donné le double de son troupeau, des milliers de bœufs qu'il eut en premier, lorsqu'ils lui furent tous enlevés, il doubla ses bœufs. Pour les brebis, il les doubla. Mais rappelez-vous, il avait, je crois que c'était 7 ou 12, je ne me souviens pas maintenant exactement combien c'était de fils et de filles, mais ce fut le même montant de fils et de filles que Dieu lui redonna. Est-ce vrai? Voyez, il doubla toutes ses portions de marchandises ici sur la terre, mais ses fils et ses filles furent tous tués. Il ne lui redonna que le même montant de fils et de filles. L'aviez-vous déjà remarqué? Aviez-vous déjà pensé à cela? Vous en souvenez-vous lorsque nous l'avions enseigné? Voyez, où étaient ses fils et ses filles? Dans la gloire, l'attendant, voyez, chacun d'eux lui fut redonné. Voyez, il n'en avait pas perdu un seul, voyez-vous, le même montant de fils et de filles auxquels cela fut spécifié au début. Eh bien, il lui redonna le même montant à la fin, mais il doubla sa portion de brebis et de bœufs et ainsi de suite. Mais ses fils et ses filles furent tous sauvés, attendant dans la gloire que Job vienne avec eux. Oh, cela vaut tout, n'est-ce pas? Très bien. L'Épître aux Hébreux. Paul, à mon avis, c'est Paul qui parle aux Hébreux, séparant la loi de la grâce. Et nous avons eu, peut-être allons-nous lire juste quelques versets, les premiers versets du chapitre 10. Ensuite, nous irons, je pense, au 19e. Je pense que nous allons voir la loi qui possède l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Maintenant, je pense, afin d'y voir clair dans cette première partie, Paul essaye de leur dire, que les vieilles lois étaient une ombre des nouvelles choses à venir. Maintenant, une ombre, c'est quelque chose. Si vous alliez vers le mur, ou de ce côté, contre les lumières, vous découvririez que votre ombrage va devant vous. Si vous marchiez vers le coucher du soleil, votre ombrage serait derrière vous. Maintenant, remarquez, toute la loi étant une ombre des choses à venir. Voyez, juste une ombre. Maintenant, sous l'ancienne dispensation, Paul essayait de leur dire, de la manière qu'ils étaient circoncis, les mâles dans la chair, c'était un type de la circoncision du cœur, du Saint-Esprit en ce jour. De la manière qu'ils gardaient les commandements de ce temps-là, écrits sur des tables de pierre, dans les derniers jours, Dieu dit qu'il les écrira sur les tablettes de chair de notre cœur. Maintenant, la seule manière en ce temps-là, ils savaient que c'était faux de « tu ne voleras pas ». Ils devaient le voir dans le commandement. Et la loi fut ajoutée pour amener la réconciliation. Parce que s'il n'y avait pas eu de loi, eh bien, s'il n'y avait pas eu de loi, il n'y aurait pas eu de péché. Parce que si ce n'est pas faux, s'il n'y a pas de loi dans cette ville, disons que vous ne pouvez pas traverser un feu rouge, vous ne pouvez pas faire ceci. Eh bien, si vous traversez un feu rouge, vous n'êtes pas dans l'erreur parce qu'il n'y a pas de loi qui le dit. Alors, la loi a apporté la colère ou elle a introduit le péché. Voyez, ils n'avaient pas. Ils ont fait toutes ces choses là-bas, avant la loi, et ils n'avaient pas péché parce qu'il n'y avait pas de loi pour dire que c'était un péché. Mais lorsque la loi arriva, la loi fut ajoutée jusqu'à ce que vienne la perfection. Maintenant, l'homme a toujours essayé de trouver quelque chose pour se sauver lui-même. Il fait encore la même chose aujourd'hui. Il ne peut que faillir. En Inde, la semaine dernière, il y avait des gens qui furent totalement aveugles à regarder le soleil, essayant de trouver la paix pour leur âme. Quelques-uns avec leurs ongles qui ont poussé derrière leurs mains comme cela, essayant de trouver la paix pour leur âme, disant qu'ils n'avaient jamais baissé leurs mains et qu'ils les avaient vers le haut depuis 40 ans, essayant de trouver la paix. D'autres avec les pieds brûlés, plus de pieds quasiment en haut. Ils avaient marché à travers les charbons brûlants pour essayer de trouver la paix, pour apaiser leur Dieu, se couchant sur de la vitre, des vieilles bouteilles brisées, des choses. Ils se couchent sur des planches avec des clous. Et tout cela essayant de trouver la paix. Et il n'y a pas de paix pour eux, parce que c'est entièrement de l'idolâtrie. Et nous, ici en Amérique, ne traversons même pas la rue pour trouver la paix pour notre âme vers le Dieu réel et vivant. C'est exact. Mais toutes ces choses, ce sont des idées païennes d'hommes. Dans le temps où Dieu envoyait la loi, elle avait été ajoutée afin de nous montrer que ces choses étaient un péché. Mais maintenant, cette loi ne pouvait pas enlever le péché. Elle amplifia le péché. Voyez-vous ? Parce que s'il n'y a pas de loi qui dit que vous ne pouvez pas faire ceci, alors ce n'est pas, si vous commettez ou brisez cela, vous ne pouvez pas le briser parce qu'il n'y a pas de loi à briser. Mais lorsque la loi fut en effet, alors le péché est devenu manifeste. Alors ils purent dire, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne rendras pas de faux témoignages. Toutes ces choses, il le faisait auparavant, mais ça ne pouvait pas être reconnu comme un péché parce qu'il n'y avait pas de loi contre cela. Mais ensuite, quand la loi arriva, elle a fait réaliser à l'homme qu'il ne pouvait pas voler, qu'il ne pouvait pas mentir et commettre l'adultère, et tous les commandements amplifient seulement. Mais cependant, la loi n'enlevait pas le péché. Elle amenait seulement l'homme à reconnaître que c'était un péché. Ensuite, lorsque Christ est venu pour enlever le péché. Voyez-vous ? Maintenant, la seule chose que faisait la loi, il savait qu'un substitut innocent devait mourir pour les coupables. Cette loi a commencé là-bas dans le jardin d'Éden. Et ensuite, maintenant, ils offraient une brebis ou un bœuf ou quelque chose et ils le tuaient, ils mettaient le sang sur l'autel et ainsi de suite parce que c'était la couverture ou une offrande de substitution. Mais cela ne pouvait d'aucune manière enlever le péché, parce qu'il n'y a pas assez de force dans la vie de l'animal pour racheter la vie humaine, parce que la vie humaine est plus élevée que la vie d'un animal. Maintenant, nous voici assis ici ce soir. Nous sommes probablement allemands, irlandais, ainsi de suite, quelques gens de couleur. Peu importe s'ils sont noirs, blancs, jaunes, ou peu importe la couleur qu'ils ont, à partir d'une seule personne, nous sommes tous venus. Voyez-vous, cela peut être scientifiquement prouvé, que vous alliez dans l'Afrique la plus noire, ou que vous cherchiez l'homme le plus noir que vous puissiez trouver, et si vous tombiez malade, il pourrait vous donner une transfusion de sang. Votre sang est exactement semblable au sien. Ou vous pourriez aller en Chine, prendre l'homme le plus jaune qu'il y a en Chine. Il pourrait vous donner une transfusion de son sang, voyez. Ou l'homme le plus brun qu'il y a en Inde pourrait vous donner une transfusion de sang. Dieu, par un seul sang, a fait toutes les nations, tous les peuples. Mais il n'y a pas un animal dans le monde qui pourrait se comparer au sang humain. Voyez, le sang animal, chacun d'eux est différent, mais le sang de tous les humains est semblable. Maintenant, si cela n'enlève pas l'idée de quelques-unes de ces personnes qui parlent et qui enseignent à l'école ici que nous avons évolué de la vie animale, si c'est le cas, alors l'animal pourrait donner une transfusion de sang à l'être humain. Mais le sang, la vie humaine, demeure la même. Mais la vie animale, quelques-uns sont comme une couleuvre, elle a le sang froid, un poisson, il a le sang froid, mais à présent un ours, un chevreuil, ou un chien, ou un cheval, ils sont d'une espèce différente. Ni l'un ni l'autre, aucun d'eux ne peut donner une transfusion de sang l'un avec l'autre, parce qu'ils sont tous différents. Mais tous les êtres humains sont faits pareils. L'offrande, au travers du sang animal, fut seulement un substitut sous la loi, jusqu'à ce que Jésus vienne, qui n'était né d'aucun homme. Aucun homme sur cette terre fut son père. Il avait une mère, et la mère fut une vierge, la Vierge Marie, une fille de 18 ans environ. Le Saint-Esprit vint sur elle et la couvrit de son ombre. Étant une création de Dieu le Père lui-même, celui qui a créé le monde par la parole a tout simplement parlé. Vous savez, dimanche, comment nous sommes entrés dans cela. Lorsque Dieu parle, cela doit arriver. Il n'y a pas moyen du tout de s'en éloigner. Dieu dit qu'il y est et cela doit être. Rien, la parole elle-même. Et la parole était une pensée. Dieu, une parole est une expression d'une pensée. Dieu l'a pensée dans son idée et il l'a parlée et amenée en existence. Et la foi, nous l'avons dans notre cœur, la foi de Dieu dans notre cœur, et nous pouvons voir cela clairement. La foi est conçue et ensuite nous parlons et elle se matérialise. La même chose, parce que la pensée de Christ est dans l'homme. C'est ce qui produit des guérisons, et ainsi de suite. Lorsque vous recevez cette révélation parfaite de ce que vous faites, alors vous savez comment marcher. C'est cela, c'est la marche chrétienne. Maintenant, mais le sang des animaux n'enlevait pas le péché. Alors, lorsque Jésus est venu, étant Dieu lui-même, manifesté dans la chair, son sang ne venait pas du sang de n'importe quel homme. Chacun de nous, chaque prophète, chaque grand homme, nous avons du sang humain. Mais cet homme avait le sang divin. Dieu lui-même créa la cellule de sang. Et la personne, vous venez d'une cellule de sang. Si jamais vous examinez cela sous une loupe, je l'ai fait il y a quelques semaines, et l'élevage d'animaux, afin que vous, ou du bétail, il y a des dizaines de milliers de germes là-dedans. Et ces germes de petites cellules de sang se heurtant en ceci dans l'humain ordinaire. Mais dans ce lieu, Dieu lui-même a créé cette cellule de sang sans l'intermédiaire d'aucun homme. Et hors de cela vint son propre Fils, Christ Jésus, dans lequel Dieu lui-même demeura, le faisant lui Emmanuel sur la terre. C'est le portrait. C'est ce que vous devez croire pour être sauvé. Et ensuite, Jésus, librement, il n'était pas obligé de le faire, mais librement, avec l'amour dans son cœur pour son compagnon, il mourut sur le calvaire. Et il versa ce sang, portant les péchés du monde. C'est au calvaire qu'il prit nos péchés sur lui-même. Maintenant, ce n'est pas ce que je peux faire. Ce n'est pas que je sois bon ou non. C'est plutôt qu'il est bon. Je ne peux jamais être assez bon pour y arriver. Vous ne pouvez pas être assez bon pour y arriver. Si jamais vous y arrivez, vous vous tiendrez dans les mérites de Jésus-Christ. Je vais vous dire cela maintenant parce qu'il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire. mais Dieu a transféré tous nos péchés sur lui, et il mourut. Et parce qu'il mourut, un pécheur, la Bible dit, son âme est allée en enfer. C'est exact. Et pendant qu'il était là, il prêcha à ceux qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis dans la longanimité des jours de Noé. Mais ce n'était pas possible qu'il laisse son corps voir la corruption, ni son âme en enfer. Et le troisième jour, il ressuscita pour notre justification, nous montrant que lorsque notre foi est confessée en lui et que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit, alors aussi certain qu'il est sorti du tombeau, nous ressusciterons aussi à sa seconde venue. Oh, quelle espérance parfaite! Oh, lorsque vous voyez les religions du monde et leurs superstitions, et ensuite voir notre salut et notre solide espérance, basée sur un principe fondamental que tous les démons de l'enfer ne peuvent pas ébranler. Vous pouvez les voir fabriquer la beauté. La religion bouddhiste est une belle religion. La religion hindoue est une belle religion. Mes frères, elles sont aussi sans vie que la vie peut être. Dans quelle partie la vie est-elle? La vie est dans le sang. Le sang, c'est la vie. Et c'est le seul homme qui pouvait verser la bonne sorte de sang, parce qu'il était le sang propre de Dieu. Et il a versé le sang qui nous a rachetés, vous et moi, et alors notre salut se repose en Christ Jésus, ce qu'il a fait pour nous au calvaire. Peu importe comment ou combien nous tombons, combien immoraux nous pouvons devenir, combien pollués nous devenons, lorsque nous regardons au calvaire, avec un cœur sincère, et confessons nos péchés, là, au calvaire, c'est réglé. C'est exact. Votre confession n'est pas aussitôt sortie de vos lèvres que Dieu est dans l'obligation de vous répondre. C'est exact. Oh, quand je pense à cela. Oh, pas surprenant que Paul ait dit, je me suis tenu là, à la chambre l'autre jour, où ils lui ont coupé la tête et où l'ont jeté dans un fossé, j'ai pensé, juste avant, il a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Tombeau, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, c'est cela notre repos. Oh, c'est ce dont j'aime parler. Écoutez, certains parmi les jeunes gens, vous êtes peut-être jeunes, mais cela peut être fragile au point que vous ne le remarquiez pas vraiment. Mais attendez juste un petit peu. Jusqu'à ce que vous soyez couché ici à l'hôpital et que le docteur dise qu'il ne vous reste que 2 jours à vivre ou 2 heures, attendez juste un petit peu que ce cœur omette de battre et que vous sentiez monter cela dans votre manche. Oh frère, à ce moment, tout votre être le cherchera. Alors, que vaudra votre vie? Elle est finie. Attendez que les cheveux grisonnent sur votre tête. Et vous réaliserez que vous envisagez une éternité sans fin là-bas. Et cette âme qui vit maintenant dedans de vous se détachera comme une dent étant arrachée, se retirant de vous comme cela pour aller quelque part. Et vous ne savez pas où vous irez. Vous feriez mieux d'y penser maintenant et de régler cela maintenant, parce que vous serez peut-être piégé au dehors. Frère Branham claque des doigts, nom de l'éditeur. Comme cela, sans même une chance de vous repentir. Alors mettez-vous en ordre maintenant. Il n'y a pas d'excuse pour le peuple américain. Ces païens de l'Afrique du Sud et des Indes, au loin là-bas, se lèveront au jugement et condamneront cette génération parce que nous avons la lumière, l'évangile, des églises, des bénédictions et tout ici, et nous refusons de l'accepter. C'est là le problème, amis. Maintenant, je dis cela d'une façon abrupte, parce que c'est pour votre bien, voyez, parce que vous devez faire cela. Or, la loi étant une ombre, oh, quand je pense à cela, la loi étant une ombre des bonnes choses à venir. Regardez ce que la loi a offert. Allons au chapitre suivant, le 11e chapitre des Hébreux. Regardez ce que Daniel a fait sous la loi. Regardez ce que Enoch a fait sous la loi. Regardez ce que Moïse a fait sous la loi. Alors, s'il vivait seulement dans l'ombre de l'expiation, que devrait faire l'Église chrétienne aujourd'hui avec la réalité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Où en sommes-nous ce soir, amis? Je vous le dis, cela devrait faire en sorte que chaque chrétien revête l'armure. Là-bas, cela disait, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Et soyez sûr de porter l'armure, le casque, le bouclier, toutes ces choses. Paul comparant cela à un soldat qui va en bataille. Et lorsque viennent les ruses de l'ennemi, élevez votre bouclier, allez de l'avant et rencontrez-le. Maintenant, si la loi pouvait produire cela, que devrait faire le réel sang de Jésus-Christ? Lorsqu'une lettre morte fera cela, que devrait produire la puissance de la résurrection? La puissance et l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous devrions venir à l'église avec une très grande révérence, un grand respect. Nous devrions entrer dans l'église comme de véritables saints de Dieu. Regarder alentour, prendre notre place et garder nos pensées sur Christ. Nous devrions abandonner toutes les choses du monde ou tout ce qui est semblable à cela. Et si vous êtes vraiment né de nouveau, ceci peut trancher un peu maintenant. Mais vous savez, ceci est la maison de correction. Si vous êtes vraiment né de l'Esprit de Dieu, c'est là que repose votre cœur de toute façon. C'est ce que vos pensées sont ancrées là-bas, voyez. Si jamais vous êtes, Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui entend mes paroles et croit. Or, si vous croyez correctement, si vous le confessez seulement avec les lèvres, cela ne vous fera pas tellement de bien. Mais de votre cœur, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous ne pouvez plus vivre la même vie que vous avez vécue auparavant. Vous ne pouvez pas, si jamais vous avez eu une réelle vision du calvaire. Maintenant, si vous prenez simplement un chemin au hasard, vous vous trompez tout simplement. Mais lorsque vous recevez réellement une vision de ce que Jésus était, oh, comme j'aimerais prêcher la déité, la divinité suprême de Jésus-Christ, si jamais vous pouviez seulement réaliser qui il était et ce qu'il a fait pour vous, hommes et femmes, vos cœurs se déchireraient au-dedans de vous et vous seriez consentants de jeter les ordures du monde afin de vivre pour lui. Oh, quelle merveilleuse et quelle personne il était. Si vous réalisez la condescendance de Dieu lui-même, se dévoilant lui-même, descendant jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre cœur. Lorsque Dieu le Père, dans la forme d'une grande nuée flottant au-dessus des enfants d'Israël, et lorsqu'il se posa sur la montagne ce matin-là pour écrire la loi, eh bien, même si un animal touchait la montagne, il devait être transpercé avec une flèche. Seulement, à travers la sanctification, il amena Moïse là-haut. Il plaça Aaron bien en bas de la côte pour surveiller et être de garde afin que rien. Et lorsque cette colonne de feu s'est posée sur cette montagne, les éclairs ont jailli, les tonnerres ont grondé, et toute la noirceur s'est établie. Lorsque Jéhovah Dieu, le Créateur de toute éternité, se plaça sur le sommet d'une montagne qu'il avait créée lui-même, de l'épaisseur des nuages, il y eut des tonnerres, des éclairs, et la terre en trembla, au point que ces Israélites se tenant en bas dans le camp, avec un sacrifice sanglant autour d'eux, ont dit, « Que Moïse parle, et non pas Dieu, sinon nous mourrons. » Pensez à cela, ce même Tout-Puissant et grand être s'est humilié et se dévoila lui-même et vint dans un corps de chair que n'importe quel homme pouvait toucher avec ses mains. Qu'est-ce qu'il fit? Il revendiqua son chemin, essayant d'entrer dans l'homme. Ensuite, après cela, il est allé offrir son propre sang, alors qu'aucun autre sang ne pouvait le faire. Pas surprenant qu'il était le prix inestimable du ciel. Pas surprenant qu'il était le roi de tous les rois, lorsqu'il s'est dévoilé lui-même, est descendu et s'est soumis lui-même entre les mains d'hommes pécheurs pour être battu. On lui a craché dessus, être meurtri, être pendu sur la croix et mourir. Lorsqu'il se tenait là, lorsqu'il a dit, « Je pourrais appeler mon père et il m'enverrait 10 légions d'anges, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Et l'un de cette foule a dit, « Oh, hors de nous, pourquoi ne s'est-il pas retourné dire, hors de moi ?» Voici la raison qu'il ne le pouvait pas, ami. Regardez cela, ils furent ses propres enfants. De penser que que les enfants d'un homme réclameraient le sang de leur papa. Si mes enfants réclameraient mon sang, il n'y aurait rien d'autre que je pourrais dire. Prenez-moi. S'il refusait de le faire, il perdait son enfant. Sa création même, ses êtres humains, c'était eux qui criaient pour son sang. Pouvez-vous imaginer les enfants réclamant le sang de leur père? C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas dire non. S'ils disaient non, ils étaient perdus. Je mourrais librement pour mes enfants et n'importe quel autre père le ferait. Regardez qui il était. Ses propres enfants réclamaient son sang. Et la justice de la loi réclamait le sang. Et le sang des moutons ne pouvait pas le faire, le sang des boucs ne pouvait pas le faire, le sang du bétail ne pouvait pas le faire, mais le sang de Dieu lui-même devait le faire. Et Dieu a été fait chair, il vécut ici sur la terre. Cette glorieuse personne, tonnant sur le sommet du mont Sinaï, était ici en chair à présent. Ensuite, il a nettoyé le chemin afin qu'il puisse venir et vivre dans votre cœur. Et maintenant, ce même esprit qui a tonné du mont Sinaï est vivant dans le cœur humain. Quelle merveille! Oh, cela devrait faire bondir chaque cœur et de penser à cela. Maintenant, passons rapidement pour aller de l'avant jusqu'au 5e et 6e verset. Nous essayerons d'arriver au 19e. Alors, hâtons-nous. Le 5e et 6e, et en descendant, il a démontré que la loi était une ombre. Comme dans l'Ancien Testament, nous avons parcouru cela l'autre jour. Oh, il y a quelques mois, c'était à l'école du dimanche. L'homme est sous le péché, disons qu'il a commis l'adultère, ou il a volé, ou violé le sabbat, ou un autre commandement. Alors, il devait prendre un agneau, et il devait apporter cet agneau vers les anciens, et ils examinaient cet agneau. L'agneau devait être irréprochable, il devait être sans défaut. Regardez la signification ici. L'agneau devait être irréprochable pour une personne blâmée. Amen. J'espère que vous le voyez. Oh, je me souviens d'une petite histoire. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà racontée ou pas. C'est seulement une petite histoire imaginaire, une fiction comme cela. Sous la loi, si la vieille mère jument avait un petit novice et qu'il soit un mulet, vous savez, ses oreilles rabattues, ses genoux qui se cognaient, et oh, et les yeux qui louchent, quel mulet horrible à regarder. Eh bien, ce mulet, cette mule, si elle pouvait se regarder elle-même, elle dirait, oh, lorsque le maître sortira, il va me tuer parce que il ne me nourrira pas, je ne suis pas digne de vivre. Regardez-moi dans quel gâchis horrible je suis. Mais si la mère pouvait communiquer avec le petit gaillard, elle aurait dit, attends une minute chérie. Tu peux vivre, parce que tu es mon premier-né, et tu as un droit d'aînesse. Or, lorsque le maître sortira et te verra dans toute ta condition, il doit retourner prendre un agneau sans tache et le tuer, afin que le mulet infirme puisse vivre. Voyez, le sacrificateur n'a jamais vu le mulet, il voyait l'agneau. Ce n'était pas si le mulet était parfait, cela devait être un agneau parfait. Oh, j'espère que vous le voyez. Ce n'est pas que vous soyez assez bon pour être chrétien ou non, c'est plutôt qu'il soit assez bon. Si Dieu l'a accepté et que son sang fasse une expiation, Dieu ne vous voit pas, il voit l'agneau. Oh, alors ce petit mulet pouvait piquer sa petite queue en l'air, renacler, sauter, courir dans le champ et avoir du bon temps. Il va vivre. Mais quelqu'un parfait devait mourir pour celui qui est imparfait. C'était moi, William Branham, un bon à rien, indigne de vivre, digne d'aller en enfer, né dans une famille de pêcheurs, élevé comme un pêcheur, aucune valeur, pas une partie saine en ce qui me concerne, c'est vrai. Mais un jour, j'ai accepté, alléluia, lorsque Dieu abaissa son regard sur Christ et que Christ prit ma place, alors Dieu ne m'a pas vu, il a vu celui qui était parfait. Alors aussi longtemps que je suis ici, en lui, alors je suis rendu parfait. Pas par moi-même, par lui, par ma perfection. Je n'en ai pas, vous n'en avez pas, mais c'est sa perfection. Donc Jésus ne fit pas d'erreur lorsqu'il a dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et comment un être humain peut-il être parfait? Il peut être parfait par sa foi parfaite demeurant en lui. disant, il a payé le prix pour moi. Jésus a tout payé, je lui dois tout. Le péché avait laissé une tache cramoisie, il l'a blanchie comme de la neige. Oh, cela fait de nous des méthodistes criants, n'est-ce pas, quand vous pensez à cela? Vous, je crois en cela, je crois dans une expérience à l'ancienne mode, en criant, oui monsieur, si les enfants reçoivent la bonne sorte de vitamine, ils se sentent toujours bien, vous savez ce que je veux dire? Nous avons besoin de vitamines spirituelles dans l'église aujourd'hui, ne le pensez-vous pas? La congrégation répond, amen, note de l'éditeur. Cela me rappelle un fermier une fois, il avait une vieille petite, ce fermier il avait une grange, il avait tous les bons outils agricoles pour cultiver, des tracteurs et tout, mais il était trop paresseux pour cultiver. Alors il laissa simplement les mauvaises herbes croître dans son champ, et lorsque vint l'automne, la seule chose à faire fut de couper ces mauvaises herbes et de les mettre dans la grange. Et il y avait un autre fermier, il n'avait pas une aussi belle grange, mais il était un homme habile, et il sortit, et c'était un travailleur, et il travaillait parce qu'il voulait nourrir son bétail, et il récolta du bon trèfle et de la luzerne, et il mit cela dans la grange. Dans les deux fermes, chaque année, il y avait un petit veau qui naissait cette année, et alors le petit veau là-bas, dans l'autre grange, il devait se nourrir de mauvaises herbes, mais il avait une belle et jolie grange. Et l'autre petit veau n'avait pas une très belle grange, mais il avait quelque chose à manger. Ça me fait penser à certaines de ces vieilles petites églises. Elles regardent ces grandes, grosses et fières futures places, vous savez, avec un orgue à tuyaux de milliers de dollars, des milliers je veux dire, et des sièges en peluche et toutes choses ainsi. Mais y a-t-il quelque chose à manger? C'est la chose suivante. Et que vous alliez dans certaines petites missions à l'ancienne mode quelque part. Vous savez, vous trouverez peut-être beaucoup là-dedans, certaines vitamines spirituelles. Dieu les a pour vous, pour aider votre esprit à s'élever, vous donner un peu de vitalité. C'est la prédication de l'Évangile. Alléluia. Si ça ne stimule pas l'Église, il n'y a rien qui le fera. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole. Quand j'entends que Jésus est mort pour moi, je dis, c'est réglé, gloire à Dieu, je suis en sécurité maintenant, parce que je suis en lui. Il m'a accepté, c'est exact, il m'a choisi, il vous a choisi. Chacun d'entre vous ici qui êtes chrétien, Jésus vous a choisi. C'est à vous, très bien, il vous a pris. Et ce petit veau, l'un d'entre eux, il avait culbuté, il venait de cette belle grange enjolivée, avec des étagères de 14 carats, vous savez, des petites loges et toutes ces choses. Lorsqu'il est sorti, le pauvre petit pouvait à peine marcher dehors, vous savez. Il était si maigre, mangeant ses mauvaises herbes tout l'hiver. Alors l'autre, il est sorti sur le terrain de la grange, vous savez, et le vent chaud qui soufflait, et un peu, le vent le jeta quasiment par terre. Il était tellement maigre. Et là-bas, de l'autre côté, ce fermier a relâché son petit veau dehors, et oh, il était tout gras et rond, vous savez, oh, il était en bonne forme. Lorsqu'il est sorti là, il commença tout simplement à sauter de haut en bas, sautillant autour, vous savez, il avait une bonne vieille réunion pentecôtiste, simplement en sautant de tous côtés. Vous savez ce que ce petit veau a fait? Celui là-bas, dans la grande et grosse grange, il avait toutes les grandes choses, vous savez, il regarda en bas, jeta un coup d'œil à travers la fente et dit, Frère Branham démontre le mécontentement du veau et donne 4 sons faibles, note de l'éditeur. Quel fanatisme! Quel fanatisme! Ce petit gaillard se sentait bien. Pas surprenant qu'il pouvait sauter. Il avait été engraissé. Il se sentait bien. C'est de cette manière, lorsqu'un homme reçoit vraiment ses vitamines spirituelles, à la maison de Dieu, il vient là et son âme est nourrie par la parole de Dieu et il sait où il se tient. Toutes ces vieilles superstitions s'envolent. L'adoration du diable et toutes les autres choses se dispersent au loin. Lorsque tu vois que Jésus-Christ est mort à ta place, qu'il a pris ma place là au calvaire, le pur, l'amour divin vient là. Cela fait en sorte que je me comporte bizarrement aux yeux du monde. Une fois de temps en temps. Mais je me sens tellement bien à propos de cela, parce que je deviens rempli de vitamines, c'est cela, ces bonnes vieilles vitamines ici. Maintenant, Paul a dit, lorsque l'adorateur vient et apporte le petit, s'il avait mal agi, il venait avec ce petit agneau. Maintenant, le souverain sacrificateur examinait cela. Le sacrificateur le faisait. Et il voyait à ce qu'il n'y ait pas de défaut dans l'agneau. Il le vérifiait pour voir s'il était correct. Et si c'était correct, alors il déposait le petit agneau sur l'autel. Et voici que vient l'homme qui a fait le mal. Il dit, or j'ai volé, je sais maintenant que je suis sujet à la mort parce que j'ai fait le mal. Dieu ne veut pas que je vole, son commandement dit de ne pas le faire. Maintenant, je vais mettre mes mains sur ce petit agneau. Le commandement de Dieu disait, tu ne voleras point. Et j'ai volé, alors je suis sujet à la mort. Quelque chose doit répondre pour mon péché, car j'ai volé. Et Dieu a dit, le jour où j'en mangerai, que ce jour-là, je mourrai. Aussi, j'ai volé. Et Dieu dit, tu voles, tu dois mourir pour cela. Aussi, il exige, si je ne veux pas mourir, je dois amener l'agneau. Alors, je dépose l'agneau là, et je place mes mains sur la tête de ce petit. Celui-ci, bêle et s'agite, et je dis, Seigneur Dieu, je suis désolé d'avoir volé. Je confesse et te promets que je ne volerai plus, si tu veux bien m'accepter maintenant. Et pour mon sacrifice, et pour ma mort, ce petit agneau va mourir à ma place. Alors, ils prennent ce grand crochet, le mettent au-dessous de sa petite gorge, et la coupent comme cela. Ils le tiennent debout comme cela, et le pauvre petit, bêlant, bêlant, la laine devient toute sanglante comme cela, et sa pauvre petite bouche, et lui qui bêle, 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 et la première chose que vous savez, il baigne dans tout son sang, et il incline sa petite tête, c'est tout. Ensuite l'homme, sa déclaration est écrite, elle est placée sur le côté de l'arche comme ceci, que cet homme a fait une confession. S'il le fait une seconde fois dans une année, il doit mourir de toute manière, il doit mourir avec l'agneau. Maintenant c'était l'Ancien Testament, il ressortait tout de suite de là, aussitôt après avoir fait sa confession, il ressortait. Et peut-être qu'il avait commis l'adultère, peut-être qu'il avait fait quelque chose de mal, ou beaucoup plus. Lorsqu'il ressortait de là, peut-être avait-il tué un homme, peut-être. Lorsqu'il ressortait de toute manière, il retournait avec la même chose dans son cœur qu'il avait faite quand il était entré. Il n'y avait pas de changement en lui. Il y avait seulement selon la loi, la lettre de la loi, et il avait répondu aux exigences. Maintenant, cela ne pouvait pas changer son cœur. La seule chose qu'il savait, c'est que c'était mal, car il l'avait lu dans la loi, et l'agneau devait mourir à sa place. Mais maintenant, lorsque Jésus vint, voyez, le sang de Christ, voyez quelle sorte de sang que c'était qui coulait, le sang animal, la vie animale pour une vie humaine, cela ne pouvait absolument pas enlever le péché, cela ne le pouvait pas. Mais maintenant, lorsque Jésus vint, ce n'était pas seulement la vie humaine, mais c'était la vie même de Dieu lui-même. C'est ce qu'il y avait dans son sang. Maintenant, nous voyons que nous agissons mal. Oh, j'ai fait le mal. J'ai péché. J'ai vécu faussement. J'ai fait le mal. Maintenant, je viens à l'autel. Par la foi, je vois le sacrifice. Je place mes mains sur la tête de Jésus. Je dis, cher Dieu, je sais que je suis un pécheur. Et le salaire du péché est la mort. Et si je fais le mal, je dois mourir. Et si je meurs, je ne pourrai pas entrer dans ta présence. Je serai châtié dans les tourments à jamais et à jamais. Aussi j'ai tort, Père. Et je veux être juste. Et je ne veux pas mourir comme ceci. Alors, je pose mes mains sur sa tête, car sa vie fut prise pour ma vie. Mais la chose est que lorsque je quitte l'autel, je m'en vais avec un cœur changé. Voyez ? Le premier homme qui s'en est allé sous la loi, sous le sang animal, cela ne pouvait pas changer son cœur, car la vie animale ne peut pas se comparer avec la vie humaine. L'animal ne peut pas donner du sang à un humain, voyez. L'animal ne peut pas le faire, car sa vie est une vie différente. Et un animal a une vie, mais il n'a pas d'âme. Un animal est un être vivant, mais il n'a pas d'âme. Mais Dieu a mis une âme dans l'homme. Alors ainsi, mon âme, qu'est-ce que l'âme, la nature de l'esprit? Et lorsque l'âme de Christ l'a quittée, il ne l'a pas laissée en enfer, mais elle fut enlevée à travers le sang qu'il a répandu lorsque Dieu l'a conduit au calvaire. Il a mêlé son sang là-bas à la croix Et lorsqu'il se tint là, secouant sa tête de l'avant à l'arrière, les épines autour de sa tête comme ceci, avec des épines, le sang coulant sur son visage, coulant de ses cheveux sur ses épaules, criant dans des, pleurant dans des langues inconnues, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà l'agneau, c'est lui, l'innocent qui est mort, afin que moi, l'indigne, puisse être restauré, afin que j'aie droit à la vie. C'est l'indigne, et nous sommes, vous êtes ceux qui sont indignes, pour lesquels l'agneau est mort. Maintenant, montez ici, placez vos mains sur lui, voyez, et faites votre confession, et Dieu vous répondra avec le Saint-Esprit, comme une confirmation qu'il vous a accepté. Par un seul sacrifice, le voici, par un seul sacrifice, il a mené à la perfection pour toujours. Nous y voilà, car l'adorateur, venant à chaque année, cela fut continuel environ à chaque année, il retournait, il devait revenir l'année suivante, avec le même désir dans son cœur, mais lorsqu'il a fait un sacrifice par lui-même, chaque péché, chaque désir de péché, tout fut enlevé du cœur de l'homme, et il demeure parfait aux yeux de Dieu, non par ce qu'il a fait, mais par ce que Jésus a fait pour lui, s'il accepte le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Oh, quelle chose merveilleuse, amis. Maintenant, ainsi donc, maintenant le verset 19, nous avons environ 20 minutes, mettons tout cela dans les Écritures à présent. Maintenant le verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Écoutez, le voici. Maintenant, entrez dans le lieu très saint. Il y a un endroit saint, ensuite le lieu très saint, le saint des saints. C'était appelé comme cela. Le souverain sacrificateur y entrait une fois par année. Et lorsqu'il le faisait, la première chose qu'il devait faire était d'être aspergé lui-même. L'arche était là derrière le rideau. Et le souverain sacrificateur devait être oint avec le parfum fait de la rose de Saron. Aucun autre parfum ne faisait l'affaire. Saviez-vous que Jésus était appelé la rose de Saron? Qu'est-ce qu'une rose? D'où vient le parfum de la rose? D'où vient? Jésus était appelé le lys de la vallée? Est-ce juste? La congrégation dit Amen, nom de l'éditeur. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient l'opium d'un lys? L'opium est retiré du lys. Et qu'est-ce que l'opium fait? L'opium diminue la douleur. Lorsque les gens sont malades et terriblement souffrants, qu'ils en perdent la raison, qu'ils deviennent des aliénés, ils leur donnent une piqûre d'opium et c'est réglé. Ils se calment. C'est dans le naturel. Jésus dans le spirituel. Il est le lys de la vallée. Et lorsque vous en arrivez à un endroit où vous ne pouvez plus vous supporter vous-même et que la vie ne signifie plus rien pour vous, Dieu a une piqûre d'opium pour vous, du lys de la vallée, qui soulage tous vos troubles et ils partent tous. Vous n'avez pas besoin de vous enivrer au whisky pour apaiser vos troubles. Ils reviennent tout de suite. Mais venez, recevez un verre d'opium du lys de la vallée et ils seront terminés pour toujours. Venez-y, allez-y. Mais quoi que ce soit, que vous viviez, que vous mouriez, que vous soyez ceci ou cela ou autre chose, que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Il n'a pas promis aux chrétiens un lit de rose, mais ils ont eu la promesse que la grâce suffirait pour chaque besoin qu'ils ont. Amen. Dites donc, je crois que je me sens religieux à présent. Pensez-y, oui monsieur. Car lorsque je deviens las et songeur, je regarde ici et je vois ceci qui se passe, cela qui se passe. Mais je pense, attends une minute, oh, voyez, il y a le lys de la vallée. Maintenant, qu'est-ce que l'odeur fait? Une odeur. Les femmes se mettent du parfum pour plaire. Et les hommes mettent de l'après-rasage sur eux parfois comme cela, afin que les odeurs, leurs mauvaises odeurs soient dissimulées. Et lorsque vous marchez dans la présence de quelqu'un qui sent mauvais, ou avec quelque chose d'autre, les parfums dissimulent cette odeur, afin que vous, en présence de cette personne, que vous ne soyez pas maintenant dégoûté, ce n'est pas supportable. C'est ce que les parfums, ou les savons sont parfumés, et vous vous lavez avec du savon, ou des poudres de talc, ou quoi que ce soit, c'est pour cela qu'ils s'en servent. Maintenant remarquez, amen, je me sens bien. Regardez, Jésus a dit, voyez, il était la rose de Saron. Et il fut offert à Dieu comme une saveur parfumée. Et ceci, ensuite, lorsque nous devenons insupportables devant Dieu, et tellement, excusez-moi l'expression, mais tellement puants, voyez que nos péchés, ces choses, sont si mauvais, si répugnants, ensuite nous venons au calvaire, et là, un lys ou n'importe quelle fleur, avant que le parfum puisse être fait, prenez une fleur, c'est joli, hein, un gros lys du matin ou une belle rose. La rose de Saron est une belle fleur, pendant qu'elle vit, elle est belle. Mais pour obtenir une odeur de cela, pour obtenir un parfum, elle doit être broyée et ils extraient le parfum de cela. Vous voyez, Christ, lorsqu'il était ici sur la terre, il était beau. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, sa vie est incomparable, il était beau. Mais pour être comme il était, lorsque Dieu regarda en bas, il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il a dit, « Vos sacrifices sont devenus une puanteur sous mon nez, mais en lui j'ai mis toute mon affection. » Or, il était bien agréable, plaisant, et pour faire en sorte que nous plaisions à Dieu, il dut venir afin d'être broyé au calvaire, et le péché de ce monde devait lui ôter la vie. Et il est mort, portant les péchés du monde, afin que nous puissions être oints avec la rose de Saron. Il était le lys de la vallée. Il a été brisé pour nos transgressions, une saveur parfumée. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Le lys de la vallée qui nous donne l'opium pour soulager nos maladies et notre douleur. Quel magnifique portrait! Maintenant, le souverain sacrificateur, avant qu'il puisse entrer dans le Saint des Saints, premièrement, il devait porter un vêtement fait d'une certaine manière. Il ne pouvait pas être fabriqué par n'importe qui. Il devait être fabriqué par des mains saintes. Cela montre que nos vêtements, voici ce que c'est, cela vient juste de me venir à l'instant. Frère, si vous portez seulement un vêtement d'église, vous feriez mieux de vous débarrasser de cette chose. Vous ne pourrez pas aller derrière le Saint des Saints. Le vêtement que le grand prêtre portait là-dedans devait être fait par des mains saintes, bien sélectionnées, amen, ordonnées de Dieu. Voilà ce que c'est. Alors si vous vous êtes joints à l'église, et pensez que vous êtes correct, vous faites erreur. Voyez, cela doit être une robe sélectionnée par Dieu. Et nos guenilles de propre justice ne pourront pas tenir en sa présence. Cela prend le Saint-Esprit, qui est la robe de Dieu, qui revêt le croyant pour aller derrière le Saint des Saints. Oh, c'est bon! J'aime cela! C'en était une nouvelle. Je n'en avais jamais avalé une comme cela auparavant. Mais c'est ça, juste cette sorte, c'est la bonne sorte de vitamine. Voyez, cela prend le Saint-Esprit. Regardez dans la parabole, il est allé au souper de noces. Et tout le monde au souper des noces devait avoir un certain vêtement. Et il a rencontré un homme là qui n'avait pas cette sorte de vêtement. Et il a dit, ami, que fais-tu ici? Comment es-tu entré? Maintenant, voyez, si vous connaissez la parabole, dans l'Orient là-bas, dans les pays à l'Est, lorsqu'ils font une noce, jusqu'à aujourd'hui, l'époux peut inviter qui il veut. Et Dieu peut. Aucun homme ne peut venir à Dieu ou venir à Christ, sauf si Dieu l'appelle d'abord. Voyez, c'est l'élection de Dieu. Maintenant, observez attentivement. Et ensuite, l'époux, s'il a donné l'invitation, il doit fournir les robes. Et aucun homme... Car il invite les pauvres, il invite les riches, mais pour faire en sorte que chaque homme se ressemble, il doit avoir la même sorte de robe. Les pauvres comme les riches. Comprenez-vous? La congrégation dit amen, note de l'éditeur. Maintenant, lorsque Dieu donne le Saint-Esprit à un homme pauvre, c'est le même Saint-Esprit qu'il donne à l'homme riche. Voyez? Ils doivent tous être pareils afin que lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, personne ne puisse dire « Je suis mieux habillé ». Parce que c'est le même sang, la même grâce, le même Saint-Esprit, vous faisant agir de la même manière. Le riche comme le pauvre doivent se ressembler. C'est exactement la parabole, remarquez. Et ensuite, lorsqu'ils arrivaient avec leur invitation, les robes étaient distribuées à la porte. L'homme se tenait là, il montrait son invitation lorsqu'il arrivait, il présentait cela. Ils le font en Inde actuellement. C'est ainsi qu'ils viennent au mariage. Le portier se tient là à la porte, l'homme de la maison, et vous donnez votre invitation. Oui, monsieur. Ils se rendront ici, prendront une robe, juste une robe, et la mettront sur lui. Il entre à l'intérieur. Cela démontre qu'il a été invité officiellement. Il a été accepté officiellement et maintenant il est un membre. Amen. Voilà. Maintenant Dieu le Père, le Saint-Esprit sort et vous invite au souper des noces, voyez-vous. Maintenant cela dépend de l'époux, alors, de fournir les robes. Et il l'a fait par sa propre vie, donnant le Saint-Esprit. Et vous venez à la porte, amen, avec votre invitation. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Et lorsque vous venez au travers du nom de Jésus, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Est-ce vrai? Recevez le Saint-Esprit. Ensuite, vous entrez à l'intérieur et vous devenez un membre de la famille de Dieu. Un membre. Vous dites, un membre? Certainement. Deviendrai-je un serviteur? Non, vous ne devenez pas. Vous devenez un membre. Vous n'êtes pas des serviteurs. Vous êtes des fils et des filles. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Un membre de la famille de Dieu. Oh, je vis peut-être dans une cabane, mais je suis de sang royal. Voilà, un membre de la maisonnée de Dieu. C'est scripturaire. C'est ce que dit l'Écriture. Voyez quel amour le Père nous a témoigné au point que nous soyons appelés fils de Dieu. Oh, les voilà, les membres. Maintenant, le grand prêtre est en oint. En entrant, il devait prendre le sang de l'animal avec lui, sinon il mourrait. Et une autre chose, à propos de ce vêtement. Saviez-vous, au bout de ce vêtement, saviez-vous ce qu'il y avait à la fin de ce vêtement? Il y avait quelque chose au bas de cela. Et chaque, c'était des petites choses qui pendaient là, juste au bord de son vêtement. C'était une petite grenade, une cloche, une grenade et une cloche. Et il devait marcher d'une certaine manière lorsqu'il entrait. Il ne pouvait pas se présenter de n'importe quelle manière. Il devait marcher d'une certaine manière, car à chaque fois qu'il faisait un pas, ses clochettes tintaient en se frappant contre les grenades. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors le Seigneur l'entendait alors qu'il approchait. Amen. Alléluia. C'est cela. Dieu vous entend si vous vous approchez par le chemin pourvu de Dieu, car vous venez criant de tout votre cœur. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et là, vous entrez. Quoique, quand vous veniez, vous cherchez le Saint-Esprit, voyez, Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ensuite, la congrégation, la seule manière qu'il savait, maintenant, s'il entrait en cela, n'étant pas habillé exactement de cette manière, il mourrait à la porte. Il n'en ressortirait plus jamais. Il mourrait là-dedans, s'il ne pénétrait pas habillé et oint pour entrer. Maintenant, la seule manière que la congrégation savait s'il était correct ou pas, oh, la seule manière que la congrégation en attente savait si le souverain sacrificateur était correct ou pas, ils entendaient le bruit de ses clochettes. Il y avait un bruit là-dedans, et c'est la manière par laquelle ils savaient s'il était juste ou pas. Je me demande si cette même chose marche aujourd'hui, si vous passez par une église, c'est tout simplement mort et immobile, je ne sais pas. Mais s'il se fait un bruit, vous savez, il fait savoir aux gens que Dieu est encore sur le trône. Dieu répond à la prière. Les gens ont encore le Saint-Esprit. Criant les louanges de Dieu, glorifiant Dieu, faisant beaucoup de bruit. La congrégation dit, eh bien, il doit être autour d'ici. Ceci est un endroit vivant. Lorsque nous entrons dans le Saint des Saints et nous réclamons être des chrétiens, il doit y avoir un bruit qui se fait. Je ne veux pas dire certains beaucoup de stupidité, je veux dire un réel et véritable bruit. C'est exact. Maintenant, observez ici. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Cela fait tout ressortir. Oh, j'aime ceci, mais je suppose que nous devons terminer. Mais lorsque nous marchons vers Dieu, n'y allons pas en disant, eh bien, je me demande si tout est correct, j'espère que je le suis. Ce n'est pas la manière de venir. Frères, croyez l'histoire, acceptez-le et naissez de nouveau. Ensuite, marchez avec une foi pure, sachant ceci, que Dieu a fait une promesse et Dieu ne peut pas mentir. Dieu m'a promis la vie éternelle. Si je crois en son Fils Jésus-Christ, je l'ai cru et il m'a donné la vie éternelle. J'ai fait bien des erreurs, j'en fais encore, j'en ferai toujours. Mais lorsque je l'ai fait, le Saint-Esprit me dit que c'est faux. Alors, je me repens juste là. Seigneur, pardonne-moi, je ne voulais pas le faire. Aide-moi maintenant. Et je continue de l'avant, la même chose. Car aussitôt que cela sort de mes lèvres, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner. Est-ce exact? La congrégation dit « Amen » de l'éditeur. Alléluia! Le diable dit, tu sais quoi? Je vais te dire, tu t'es supposé aller faire une certaine chose, tu ne l'as pas fait. Tu as péché, n'est-ce pas? Je dis, je l'ai confessé. Eh bien, je te dis, non, ne me parle pas, non monsieur, j'ai la foi parfaite en ce qu'il m'a dit. Si je confesse mes fautes, il me pardonnera. Alors, je les ai confessées, va-t'en tout simplement loin de moi. Je ne me soucie pas de toi de toute manière. Alors, continuez simplement à avancer. Marchez avec hardiesse, directement en cela. Si la mort repose là, c'est très bien. Avancez directement en cela, avec une foi parfaite, que Dieu a promis qu'il vous ressusciterait dans les derniers jours. Oui, monsieur. Comme je vous le disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Ici, il y a quelques jours, avant que j'aille outre-mer, je me tenais, Jean et moi, nous sommes semblables, comme vous dites. J'essayais de peigner les quelques cheveux qui me restent. Et mon épouse m'a regardé, elle a dit, chérie, elle a dit, tu ferais mieux de porter un de ces toupins, de ces perruques qu'ils t'ont donné ici, en Californie. J'ai dit, chérie, je les aime bien, mais j'ai honte de le faire. Elle a dit, oh, Billy, tu prends certainement, tes cheveux sont vraiment partis, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, c'est exact. Mais j'ai dit, oh, alléluia! Elle a dit, pourquoi dis-tu alléluia? J'ai dit, je n'en ai jamais perdu un seul d'entre eux. Elle a dit, tu n'en as jamais perdu un? J'ai dit, non! J'ai dit, tu vois, chérie, je vieillis. J'ai dit, j'ai 45 ans. J'ai dit, je suis un vieil homme. J'ai dit, je n'ai pas, oh, j'ai dit, je vieillis. Cela ne me dérange pas d'avoir la tête chauve ou pas. Cela ne me fait rien. Aussi longtemps que je n'attrape pas de mauvais rhume si facilement, oui. Et elle a dit, eh bien, j'ai dit, mais elle a dit, eh bien, où sont? Elle a dit, mais tu as dit que tu n'avais pas perdu tes cheveux. J'ai dit, non, ils ne sont pas perdus. Pourquoi? J'ai dit, Jésus a dit, pas un seul cheveu de ta tête ne périra. Voyez? Elle a dit, veux-tu dire, eh bien, j'ai dit, chérie, dans la résurrection, lorsque je reviendrai comme un jeune homme, comme j'étais quand nous nous sommes mariés, les épaules droites, pas une ride, les cheveux noirs, épais. J'ai dit, c'est à cela que je vais ressembler de nouveau. Oui, monsieur. J'ai dit, je n'en ai pas perdu un seul alors. Elle a dit, eh bien, où sont-ils? J'ai dit, je vais te demander quelque chose. Ensuite, si tu me réponds, je vais te répondre. Elle a dit, quoi? J'ai dit, où étaient-ils avant que je les aie? Elle a dit, eh bien, je suppose que Dieu avait... J'ai dit, c'est là qu'il les a aussi. J'ai dit, ils sont encore là. Chaque vitamine qui était en eux, chaque cellule de vie qui était en eux, chaque atome qui était en eux, chaque partie de pétrole qui était en eux, chaque petite lumière que cela a pris pour les créer, Dieu avait cela dans ses mains. Pas un seul n'a péri, ils sont chacun d'eux quelque part dans les mains de Dieu. Je vois que j'ai les yeux creux, avec des poches en dessous, de gros rides sur mon front, et parfois je dois presque froncer les sourcils pour regarder dans ma Bible. Et le docteur m'a dit que j'ai une vue parfaite, 20 sur 20. Mais il a dit, une fois que vous avez dépassé 40 ans, vos globes oculaires s'aplatissent et vous ne pouvez pas lire trop près de vous. J'ai dit, oui monsieur, je sais cela. Il a dit, vous n'avez qu'à éloigner votre Bible. Il a dit, après quelque temps, vous l'aurez de cette manière. Je dis, je vais simplement chercher des plus grosses lettres ou quelque chose comme cela. Il a dit, eh bien, c'est seulement la nature. Je regarde au loin et je peux voir un cheveu étendu sur le bord d'une assiette. Il a dit, eh bien, vous avez 40 ans, monsieur. Il a dit, vos globes oculaires, actuellement, tout comme vos cheveux, deviennent gris, ainsi de suite. Il a dit, vous devez simplement avoir cela. J'ai dit, Je me suis regardé, et j'ai regardé mes épaules. Je me tiens les épaules voûtées. Autrefois, j'avais l'air jeune et athlétique. Je deviens gras maintenant. J'ai 40 livres en trop et j'ai les pieds plats pour commencer. Et maintenant, c'est difficile de marcher. Des maux et des douleurs qui viennent. Eh bien, je vieillis, c'est tout. Mais je n'ai pas besoin de tout ce charme que j'avais auparavant. Mais j'en ai pas perdu du tout. Chaque mesure qui était en eux, la peau qui me rajeunissait, Dieu les a toujours, c'est exact. Cette vieille coquille se traîne tout simplement, c'est tout. Au bout d'un moment, elle deviendra vieille et toute ridée, et peut-être qu'elle fera comme le reste des Harvey du côté de ma mère, auxquels ils disent que je ressemble. Ils ont toutes ces convulsions. Vous rappelez-vous de grand-papa, celui qui a bâti l'église ici, vous savez, il tremble toujours faisant comme ceci, voyez, et il a ses convulsions. Et j'ai remarqué ma pauvre vieille maman l'autre jour. J'espère qu'elle n'est pas ici, mais... Une sœur dans la congrégation dit, oui, elle est ici, nos deux éditeurs. Oh, je ne sais pas si... Eh bien, de toute façon, elle commençait à prendre une tasse de café, et cette pauvre personne âgée juste comme cela, et ses vieilles mains comme cela, j'ai regardé ses rides qui pendaient, j'ai pensé, oh, miséricorde, je suis aussi bien de le dire, elle est assise là, voyez, elle a dit, je ne suis pas, elle peut le supporter, mais regardez, mon cœur a quasiment bondi dans ma bouche, j'ai tourné ma tête, j'ai pensé, oh Dieu, combien de fois cela a fait couler les larmes de mes yeux. Et maintenant, elle a ces tremblements, ces convulsions tremblantes. J'ai pensé, oui, je deviendrai ainsi aussi un jour, comme cela si je vis. Mes frères, un de ces jours, je vais simplement, les vieilles roues de la vie mortelle vont être remplacées. Quand cela arrivera, j'irai sur la montagne de Sion pour vivre quelque temps. Là-bas, oui monsieur, toutes ces vieilles choses mortelles. Oh, rappelez-vous, il a dit, il y a un heureux lendemain qui m'attend, où les portes de perles vont s'ouvrir toutes grandes, et lorsque je traverserai le voile de la tristesse, je vais camper de l'autre côté. Un jour, au-delà de l'approche de la vue immortelle, un jour, Dieu sait quand et où, les roues de la vie mortelle vont s'arrêter, et je m'en irai demeurer sur la montagne de Sion. Balance tranquillement, ô cher chariot, oui, viens pour me transporter à la maison. Balance, cher chariot, oui, viens pour me transporter à la maison. C'est exact. Le brouillard commencera à tomber devant mon visage. Peut-être que le docteur entrera et dira, eh bien, Billy, c'est terminé. Oh, je sais que cette vieille chambre noire m'attend au-delà, et mon battement de cœur s'en va vers cela. Je ne veux pas partir comme un lâche. Je veux m'envelopper dans les robes de sa justice, sachant ceci, que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Et un de ces jours, lorsqu'il appellera, je vais sortir parmi les morts et je vivrai de nouveau à jamais. Connaître Christ, c'est connaître la vie. C'est exact. Et je ne me soucie pas, je ne connais peut-être pas mon ABC, mais je connais Christ. C'est vrai. Je ne connais peut-être pas toute la théologie, mais je veux connaître Christ. Je ne sais peut-être rien à propos du président, et s'il est un homme bon ou mauvais, je veux connaître Christ. C'est exact. De connaître Christ, c'est la vie. C'est exact. Connaître le président et connaître celui-là, c'est du prestige. Connaître les célébrités et tout cela. Mais je ne me soucie pas de cela. Je veux connaître Christ dans la puissance de sa résurrection. Sachant que nous avons ce soir un souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu dans sa majesté là, faisant intercession. Alors, je veux tenir ferme cette profession. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Devant ces 14 religions différentes, d'adorateurs du serpent, d'adorateurs de la vache et tout, j'ai dit, messieurs des religions de ce monde, qu'est-ce que votre religion peut produire envers ce pauvre homme aveugle qui se tient ici? Il était là, ayant regardé le soleil pendant 20 ans, il était totalement aveugle. Je dis, qu'est-ce que votre religion peut faire pour cet homme? Rien au monde que lui offrir juste une espèce de chose mythique, quelque chose là-bas, qui dise peut-être qu'un jour, Mahomet aura pitié de lui et sauvera son âme. Peut-être que vous pensez, s'il veut encore regarder le soleil, continuer, garder sa tête de cette manière, lorsqu'il mourra, il sera sauvé. Je dis, il ne peut rien offrir. Mais le sang de Jésus-Christ, alléluia, peut non seulement lui offrir la vie éternelle, mais il peut faire une démonstration juste ici en votre présence, en lui redonnant la vue qu'il avait jadis. J'ai dit, s'il le fait, est-ce que vous, les messieurs des religions de ce monde, quand des centaines de milliers de personnes qui avaient entendu cela, qui s'étaient réunies là-dedans, bien sûr, je ne pouvais pas tous les atteindre pour prétendre cela, car vous ne pouviez même pas tous les voir. Mais j'ai dit, voulez-vous accepter Jésus-Christ s'il peut faire cela? Ils ont levé leurs mains, ses mains noires dans les airs, qu'il le ferait. J'ai dit, amenez l'homme ici. Lorsqu'il marcha en haut, j'ai dit, monsieur, vous êtes aveugle, et si Jésus-Christ veut restaurer votre vue, voulez-vous lui promettre de le servir? Et il a dit, j'aimerai Jésus-Christ, et je n'adorerai aucun autre Dieu que lui. S'il me redonne la vue, je saurai qu'il est ressuscité des morts. J'ai mis mes mains sur lui. J'ai dit, cher Dieu, comme mes mains sont mortelles, un ouvrier, un être pécheur, mais si tu recherches des mains saintes, qui les aurait? Mais je viens dans un acte de foi, comme tu m'as dit de le faire. Et je ne suis pas venu comme un homme intelligent, ou pour me vanter, mais je viens parce que tu nous as dit de le faire. Et je crois ta parole. Et maintenant, tandis que des milliers sont ici, se tenant sur le bord, ils adorent des idoles et toute autre chose, qu'il soit connu ce soir que tu es le Dieu véritable et vivant qui a ressuscité Jésus-Christ des morts en donnant à cet homme sa vue. Et l'homme, les larmes coulant sur ses joues, il a dit, je vois, et il partit à travers le bâtiment aussi vite qu'il pouvait aller avec sa vue. Oh, c'est la grâce infinie. Quel douceur qui a sauvé un pécheur comme moi. J'étais perdu, là-bas dans les courses de chevaux et toutes sortes de choses le dimanche. J'étais perdu, mais maintenant je suis sauvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Regardez, frère, c'est cette bonne religion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. C'est la grâce qui enseigna mon cœur à craindre. C'est la grâce qui soulagea mes craintes. Cette grâce qui m'apparut fut si précieuse au moment où j'ai cru. Oui, monsieur, oh, quand nous serons là-bas pendant 10 000 ans, brillant comme le soleil, nous pourrons, comme au commencement, célébrer ses louanges. Oh, dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce, je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Comme je l'aime, c'est sa grâce, rien que je ne pouvais faire, rien que je puisse faire, rien que vous puissiez faire. Mais nous venons ce soir, comme des hommes et des femmes chrétiens, confessant que nous sommes indignes, et l'acceptons comme nôtre à notre place, acceptant celui qui, je suis aussi sûr que Dieu l'accepta et le ressuscita, qu'il me ressuscita dans une forme figurative, au même moment qu'il ressuscita Christ. Amen. Oh, je dois arrêter, mais regardez, dans une forme figurative, il m'a ressuscité au même moment qu'il ressuscita Christ. Il vous a ressuscité au même moment qu'il ressuscita Christ, car c'était pour notre justification. Regardez, si vous êtes sauvés, vous l'avez. Ceux qu'il a préordonnés ou appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés en Jésus-Christ. Est-ce exact? Il a été glorifié déjà en Christ, aux yeux de Dieu, il y a bien longtemps, des millions d'années avant qu'il y ait un monde, lorsque la parole était avec Dieu. C'était les pensées de Dieu, ensuite sa parole, ensuite cela se matérialisa là-bas. Et juste au même moment où il acceptait Christ, il m'a accepté en Christ. Et dans l'au-delà, dans le monde à venir, avec vous et moi et tous les chrétiens à travers tous les âges, nous l'aimerons et vivrons avec lui et jouirons d'une éternité sans fin avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur béni. Oh, frère Robertson, je me sens comme une personne différente, voyez. N'est-ce pas que lire la parole de Dieu à l'ancienne mode nous nettoie? Voyez, vous sortez tout nettoyé. Comme maman avait l'habitude de faire, quand le temps venait de mettre des fruits en pot, elle devait mettre en conserve les pots de fruits, vous savez, les remplir afin de les préserver et toutes ces choses. Elle me les faisait sortir, elle les nettoyait à la brosse, aussi dur que je le pouvais avec un vieux linge. J'avais une petite main pour aller là et les nettoyer, et ensuite elle les prenait, les stérilisait. Elle les mettait dans de l'eau bouillante pour les stériliser. Elle faisait bouillir ses peaux aussi fort qu'elle le pouvait. Je ne comprenais pas pourquoi elle les faisait bouillir, mais elle voulait enlever tous les microbes de cela. Car s'il y avait eu des microbes là-dedans, ils auraient fait pourrir les confitures ou les choses qu'elle avait mises là-dedans. Ainsi, c'est ce que nous devons faire lorsque nous venons à Christ. S'abaisser là jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous ait stérilisé en vous faisant bouillir. Ensuite, Dieu peut mettre le Saint-Esprit là-dedans, sans que cela ne pourrisse, vous voyez. Il vous met simplement là-dedans et vous devenez simplement doux tout le temps. Et maman avait coutume de cuire ses conserves. Avez-vous déjà vu ces vieilles bouilloires énormes? Vous sortez, placez cela sur les briques, vous savez, et vous mettez du bois en dessous comme cela. Moi, oui. Au temps de la cuisson des conserves, on avait ces vieilles courges jaunes. Et elle en versait environ un boisseau de cela là-dedans. Et il mettait du sucre. Et elle me faisait couper du bois, vous savez. Et j'allais couper du bois et je mettais cela en dessous, vous savez. Et cela commençait à bouillir. La vapeur montait. Je disais, maman, ces choses ne sont-elles pas prêtes encore? Elle disait, non, va couper une autre cordée de bois. Et voici, j'entrais, vous savez, tout en sueur. Je mettais cela en dessous. Je disais, maman, penses-tu que c'est assez? Tu ferais mieux d'aller en chercher une autre. Elle faisait bouillir des choses jusqu'à ce qu'il, vous savez, l'oxygène ou autre chose entre en dessous de cela. Et ça les faisait péter, vous savez, pam, pam, comme cela. Ça éclatait. Et lorsqu'ils faisaient cela, elle disait qu'ils étaient prêts à mettre en conserve. Ils devenaient si chauds, ils n'en pouvaient plus, mais ils devaient sursauter, voyez-vous. Alors, je suppose que c'est exactement la manière que Dieu veut nous avoir. Vous savez, juste bouillir le diable hors de vous jusqu'à ce que vous sautiez dans la gloire. Alors vous êtes prêts à être mis en conserve. C'est alors que Dieu vous a scellé, vous savez. C'est ce dont nous avions besoin ici, une bonne réunion à l'ancienne mode, jusqu'à ce que toute l'inimitié, tout ce qui n'est pas comme Christ, soit bouilli, afin de tout faire sortir, voyez. Bouillé simplement en venant, Seigneur, pardonne-moi, frère, pardonnez-moi, je ne voulais pas faire cela, je ne le ferai plus. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Alors vous commencez à être prêt à être mis en conserve alors, voyez-vous. Dieu se prépare vraiment à vous utiliser. Lorsque vous rapportez ces choses que vous avez volées, vous savez, mettez tout cela en ordre, disant, frère, je ne voulais pas voler cela, tu le sais. Non, monsieur, je suis même prêt à, je vais vous payer le double pour cela, voyez. Alors vous êtes sur la bonne route. À ce moment, vous savez, c'est exact, voilà ce dont nous avons besoin. Oh, je vais chanter la religion à l'ancienne mode pour vous, si vous voulez. La congrégation dit, amen, nom de l'éditeur. Chantez le verset, je vais chanter la strophe. Et vous chanterez le cœur, alors. C'est le Saint-Esprit à l'ancienne mode, et le diable n'ira pas près de lui. C'est la raison pour laquelle les gens le craignent, mais il m'a bien suffi. Donnez-moi ce vieil évangile, donnez-moi ce vieil évangile, donnez-moi ce vieil évangile, car il est bien suffisant pour moi. Il suffira lorsque je mourrai. Il vous fera arrêter de mentir, il mettra le diable en déroute. Et il est bien suffisant pour moi. Donnez-moi ce vieil évangile. Donnez-moi ce vieil évangile. Donnez-moi ce vieil évangile. Il est bien suffisant pour moi, voyez-vous. Il est si bon que je n'en veux pas d'autre, car il me fait aimer mon frère. Et il découvre les choses cachées, et il est bien suffisant pour moi. Donnez-moi ce vieil évangile. Donnez-moi ce vieil évangile. Donnez-moi ce vieil évangile. Il est bien suffisant pour moi. Maintenant, combien ici ont ce vieil évangile? Levez vos mains, dites, j'ai ce bon vieil évangile, j'ai ce bon vieil évangile, j'ai ce bon vieil évangile, et il est suffisant, bien suffisant pour moi. Oh, maintenant, Père, très cher, parfois nous devenons si contents, nous agissons vraiment comme un groupe d'enfants, c'est parce que nous sommes libres. Nous ne sommes pas sous le joug du malin, ni aucune tradition, ou d'une certaine chose des anciens. Nous sommes simplement libres dans le Saint-Esprit, et nous pouvons chanter et t'adorer, et avoir communion tout de ta parole, et nous réjouir. Pour cela, nous te louons, Dieu Tout-Puissant. Oh, après avoir vu tout ce chaos des religions formalistes et toutes ces sortes d'adorations d'idoles, et de penser que tu étais si bon pour moi, de me laisser te connaître dans la puissance de ta résurrection, et de pouvoir le dire aux autres, nous sommes tellement heureux. Bénis cette petite église ce soir, Père. Bénis chacun de nous ici. S'il y a des étrangers dans nos portes, bénis-les, Père, chacun d'eux. Fais de nous une bénédiction pour les autres. Garde la puissance de Dieu sur nous, Sanctifie nos âmes des mauvaises pensées. Et si le mal vient sur notre route, nous tournons nos têtes rapidement, Seigneur, et marchons de l'autre côté. Et maintenant, Père, nous prions que tu nous bénisses ensemble ce soir. Donne-nous du bon temps. Et maintenant, lorsque nous appellerons les malades et les affligés, nous prions que tu guérisses chacun d'eux. Que la gloire reçoive la gloire de tout ce qui va être fait, dit. Car nous le demandons au nom de Christ. Et pendant que nous avons nos têtes inclinées, si quelqu'un d'entre vous ici veut dire, frère Bill, dans ma propre âme maintenant, je voudrais venir par le chemin accepté de Dieu, le chemin auquel il a pourvu. Et je voudrais vous demander, pendant que personne ne regarde, je vais lever ma main et dire, frère Bill, priez pour moi, que Dieu me donne sa grâce et fasse de moi un meilleur chrétien. Voulez-vous lever votre main? Que Dieu vous bénisse, vous et vous, c'est bien, très bien. Père, tu vois leurs mains, et je prie que tu accordes ces bénédictions, que ta grâce et ton amour soient sur eux tous. Et s'ils ont péché ou fait quelque chose, alors Père, je prie que tu puisses les pardonner. S'il y en a parmi nous ce soir, Seigneur, quelque part dans le bâtiment, homme ou femme, garçon ou fille, qui ne sont pas exactement sauvés sous le sang, Père, je prie que tu le fasses maintenant et qu'ils puissent devenir des croyants. Et tu as dit, si vous pouvez croire. Et nous croyons quoi? Croyons que Dieu a envoyé son Fils dans ce monde et qu'il est devenu péché à notre place. Et nous sommes des bons à rien et nous confessons que nous ne sommes pas bons. Et nous l'acceptons comme notre Sauveur. C'est ce que nous croyons, Père. Dans cela, tu nous as donné la vie éternelle. Oh, nous sommes tellement heureux. Tu as dit que tu nous la donnerais parce que nous avons cru dans ton Fils. Et Jésus a dit lui-même que si nous croyions en lui, que nous avions la vie éternelle. Alors nous sommes reconnaissants pour ceci. Maintenant, bénis-nous ce soir et pardonne chaque péché. Et que pas une personne qui a été dans une réunion ce soir ne se détourne jamais. Et qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Parce qu'ils se sont réunis ici ce soir et ils ont cru en toi. Eh, Père, je prie que tu les surveilles maintenant et que tu les bénisses dans tout ce qu'ils font et disent et qu'ils puissent venir à toi en paix au dernier jour. Fais que nous soyons tous réunis là-bas et qu'on se souvienne de ce soir-ci étant réunis ensemble. Accorde-le dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Et maintenant, Teddy va venir au piano et ceux qui veulent que l'on prie pour eux, si vous voulez bien vous réunir autour de l'autel, rapidement, nous allons avoir quelques minutes de plus. Nous essayerons d'être sortis pour 9h30, si vous venez tout de suite. Eh bien, j'ai une lettre à lire ici que quelqu'un m'a envoyée ici. C'est peut-être important pour moi de la lire tout de suite. Alors juste, le reste d'entre vous, demeurez tout simplement dans vos bancs, pendant que ceux-ci vont faire prier pour eux. Je sais que Sir Rodel est ici pour que l'on prie pour elle. S'il y a quelqu'un d'autre, pourquoi ?